ondes poétiques. Au festival Voix Vive, à 7h.
Dans le cadre du festival Voix Vive à 7, l'émission Ondes Poétiques, réalisée aujourd'hui par Radio FM plus 91 FM, accueille comme invitée la poétesse Emmanuelle Mahalp, qui remplace la poétesse Rim Batal qui était prévue, mais pour des raisons de santé n'a pas pu se présenter, et le poète belge Dominique Massot. Alors, à propos de Dominique Massot, qui est un poète liégeois, inscrit dans la culture du lien, initiateur de la scène slam francophone en Belgique, vous ouvrez aussi sans cesse, comme la question que je lui pose, au développement de la sphère de l'oralité en poésie, mais vous publiez aussi pour le livre « La lecture silencieuse », souvent en complicité avec des artistes graphiques, et vous diffusez votre travail à la fois par le livre, le support sonore et le spectacle vivant. Vous animez des ateliers d'écriture et spoken word, que vous allez nous expliquer un peu.
Oui, des ateliers de spoken word. En fait, ça me permet de redire pour la 4683e fois, je crois, cette distinction drôlement importante, mais qu'on ne saisit pas toujours dans le public, à cause de grands imbéciles comme Michel Drucker et compagnie, qui répètent des âneries à longueur d'émission sur le slam. Donc moi, je suis un ami du créateur du slam à Chicago en 1986, qui s'appelle Mark Kelly Smith, et qui est un personnage extraordinaire, que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises, je fais des spectacles avec lui. Et donc, ce qui est très difficile à comprendre, parce qu'on nous bassine les oreilles avec des mensonges, c'est que le slam, ce n'est pas un genre artistique, ce n'est pas une forme d'expression. Le slam, en termes de forme d'expression, c'est totalement ouvert. En slam, on peut faire ce qu'on veut. Et ça, on ne le sait pas, parce qu'on ne le dit pas. Le slam, si on fait un parallèle avec le sport, c'est comme si on disait le slam, c'est du football, ou le slam, c'est du volleyball, ou du basketball, ou de l'athlétisme. Non, le slam, c'est le terrain multisport. C'est ça le slam. C'est un terrain d'expression pour tout le monde dans une forme totalement libre. On vient présenter ce qu'on veut. Le slameur qui monte sur scène, la slameuse, ce sont eux qui décident ce que veut dire poésie à ce moment-là. Si on veut même venir proposer, comme Djenebou le fait, un poème en langue des signes, c'est de la poésie. Si on veut présenter un sketch, c'est de la poésie. On a juste un temps et un espace à se partager de manière équitable. Voilà. Alors, quand on sort de cette sphère et qu'on met un poème dans l'oralité sur un disque, dans un album qui est diffusé sur les ondes, ou bien en spectacle vivant, quand on est seul sur scène, on ne parle plus de slam parce que ce n'est plus une scène ouverte. On ne parle plus de slam si on est accompagné de 6 musiciens ou de 80 danseuses. À ce moment-là, on dit qu'on fait du spoken word. Et voilà, c'est juste cette différence. Comme ça, c'est dit.
Emmanuelle Mahalp, en tant que poétesse, vous êtes très connue sur le festival et vous avez publié pas mal de livres de poésie, donc c'est une excellente référence dans le domaine de la poésie. Mais aussi, vous êtes sur les antennes de Radio FM+, où vous animez la troisième oreille. Vous pouvez nous en parler.
La troisième oreille, c'est le psychanalyste Theodore Reig qui disait qu'un psychanalyste, ça doit écouter avec la troisième oreille. Ces chroniques que je tiens sur Radio FM+.
En plus, j'écoute ton émission.
Ce sont des chroniques qui durent entre 8 et 10 minutes, donc des courtes chroniques. Essaye d'écouter avec cette fameuse troisième oreille l'implicite des expressions qu'on emploie sans y faire attention. Par exemple, les gens qui disent en permanence qu'il faut qu'ils gèrent leurs émotions. Voilà, il faut gérer ses émotions. Bon, je me suis interrogée sur le succès de cette expression. Pourquoi, dans une société néolibérale, matérialiste et capitaliste, doit-on gérer ses émotions? Si on pose la question comme ça, on a la réponse. Mais mon travail dans ces chroniques, c'est de faire ça. Ou bien de... Sur quoi j'ai travaillé? J'ai initié là plusieurs chroniques. C'est un nouveau format, des chroniques qui se suivent et se complètent parce que le sujet était beaucoup plus vaste sur l'anti-intellectualisme. Roland Barthes dit que l'anti-intellectualisme va toujours avec les montées du fascisme, que l'anti-intellectualisme, c'est du racisme parce que c'est la haine du langage de l'autre. Et j'ai essayé de faire tourner cette citation que j'ai trouvée particulièrement riche. Ça, c'est pour les chroniques. C'est le côté, on va dire, intellectuel, avec l'écriture d'essai à côté de ça. Et je vais publier cet automne un essai pour essayer de redéfinir le féminin, pas du tout pour essayer de le circonscrire, pour le sortir un petit peu ou l'articuler différemment aux questions de genre.
Les conditions d'enregistrement, bien sûr, c'est en public et nous sommes dans une des rues de Sète, donc l'environnement est parfois assez bruyant, ça gêne un peu l'enregistrement. En tant qu'auditeur, vous allez sans doute le ressentir, et toutes nos excuses pour ça. Notre technicien fera son possible pour améliorer. Ne lui en voulez pas parce que c'est un travail très difficile et vous aurez quand même une grande partie de l'ensemble de l'émission réalisée justement à cette, au milieu du public. Merci.
Je vais peut-être lire des extraits de ce bootleg publié chez Malmström qui s'intitule « Poème anxiolytique ». Donc là, il y a un peu de mon héritage du surréalisme belge. Je dis, d'où au ciel a le temps précisément d'incandescence. J'appelle silence et là trois doigts déposés comme sable épais. Humide fait épais dans le geste lent. Mer et ciel, les doigts dans l'issue bonnement gonflés font paume à l'œil, au fond de l'œil, à la gorge au fond, et je me tais en musique, oh là là, que bon bougre de gorge profonde là. Dis-moi, les dents de canaille en matin frais n'ont à croquer ni vent ni mouton d'eau. Bruine fait le jour aérien, extérieur bruit se cogne en silence à fenêtre de bois. Je petit déjeune en affaire baillante, pomme sur paume, pomme cuite au beurre d'angle rond. Dents s'éteignent dans certains sommeils en brumes évadées. L'exploit tend à ne rien faire en ce jour d'huile, d'escapade et de vitesse. La casserole bout de but en blanc dans chaque fin tombe en toupie dans la tête des jambes agnaques. Il est écrit que veines et voix ont à courir sur piste drugstore, à baisser les pavillons de petites promenades tendres et foutre têtes baissées dans les harangues au vinaigre et des têtes cinées les titres citron à la pelle au quotidien en rotative brève. Appâtant langue insatiable, et ce matin tout rose, moi tombe là dans rien rondement tiède à Gaumont. Dans toute nasse d'honnête pensée, filer un mauvais coton, ou suivre des hanches, jeux et danses d'organsin, tout ce que le vent dénoue. Prendre ensuite à l'hémistiche de la langue quelques gouttes de guitare.
Et sitôt que toute papy bouge, bâillez. Des corneilles de brume voleront aux yeux des racines de nœuds, des entrelacs de plumes. Ne resteront que vents et mouvements, rien qu'ondes nues, chaudes et lentes et continues, en gober le suc et dormir enfin.
Dominique Massot, après avoir travaillé dans les années 1980 avec des troupes de théâtre-action, vous aviez mis sur pied des sortes d'attentats poétiques, les cabarets commando, avec le collectif Actif Autrement et le groupe Girafe, qui veut dire le groupe informel de réflexion et d'action sur les fêtes. Vous en vouliez surtout aux fêtes et au centre de jeunes La Zone. Et vous avez animé ensuite des rencontres littéraires connues sous l'intitulé « Les dimanches impairs de la poésie ». Et vous qualifiez votre poésie de gesticulée. Beaucoup de chanteurs vous ont influencé dans votre écriture, ainsi que des essayistes et des poètes humoristiques. Et bien entendu, vous parlez à la fois de Raymond Devos et du poète Norge.
Oui, voilà. Ce sont des gens qui m'ont transporté dans des univers magnifiques. Raymond Devos, tout le monde le connaît, c'est quand même un maître en la matière.
Il est belge.
Il est belge. Et Norge aussi. Ce sont des petits objets magnifiques qui ont un côté ludique que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime aussi des gens comme Bobby Lapointe, évidemment, qui...
Oui, vous connaissez. Vous citez toute une série de chanteurs.
Oui.
Ils correspondent vraiment à ce que vous
aimez. Oui, et puis je pense aussi que, je ne sais pas pourquoi, moi c'est vrai que j'ai toujours aimé l'oralité. Dans l'oralité, j'aime, parce que dans l'oralité, il y a souvent le spectacle vivant. Et en poésie, je trouve que c'est bien d'arriver à faire vibrer les mots avec le corps présent, que ce soit celui de la poétesse, du poète ou du public. Et on se reconnaît entre nous. Et souvent, moi je suis souvent un peu pris de haut par le monde rigoureux de la poésie académique. Mais par contre, le monde de la chanson, ce sont des gens qui m'aiment beaucoup, souvent. Ils aiment ce que je fais. Et j'ai été très, très proche, par exemple, de Dick Hanegarn, qui m'a invité à son festival, là, près de Toulouse, et qui était proche de l'Université de Liège, au moment. Voilà, et c'est vrai que ça nous rassemble.
Et vous parlez aussi de la folie vitale, des surréalistes et des pataphysiciens.
Oui, la pataphysique, oui, ça ce sont des mouvements importants pour moi. Moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, ça manque de mouvements en poésie. Il y a celui de la poésie sonore, mais qui va un peu dans tous les sens. Je suis très ami aussi avec Serge Peille, par exemple, avec Michel Cassé. On est très très amis, mais ça c'est plus pour des raisons politiques. mais Serge Peille, on est très amis, et c'est vrai que je me dis, lui il parle de poésie-action, et voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge, mais en dehors de ça, j'ai l'impression que les poètes sont un peu seuls au monde. D'ailleurs, là je ne sais pas si vous étiez là à mes précédentes lectures, mais j'insiste beaucoup sur le fait que je suis, par exemple, aussi directeur d'une collection chez Abrapalabra, anciennement l'Arbre à Parole, en Belgique. Et cette collection s'appelle « Lieu, lien, langue ». Et donc, l'idée, c'est... Au départ, c'était une terreur que j'avais quand j'étais enfant. Et quand je lisais un livre, j'avais l'impression que l'auteur, je voyais le nom de l'auteur... Et j'avais l'impression qu'il était tout seul dans son livre et qu'il était tout seul au monde. Mon Dieu, où sont ses amis? Où est sa vie? Et donc ça me terrorisait, cette histoire. Et plus tard, j'ai beaucoup aimé les anthologies. Mais les anthologies, les auteurs ne sont pas nécessairement rencontrés. Ils n'ont rien à faire ensemble, sinon que quelqu'un a décidé de les mettre ensemble dans un livre. Ici, dans la collection Lieu, lien, langue, je sollicite un auteur, une autrice,
Et cet auteur écrit sur des lieux dans des langues et surtout sur des lieux qu'il a traversés ou qu'ils l'ont traversé. Et ensuite, cette personne propose un texte, un groupe de textes à telle ou telle personne de ses connaissances qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, ça peut être un ennemi, une ennemie, et puis lui demande de rebondir par rapport à ces textes, que ce soit en poésie, en prose, en ce qu'on veut, ou alors tout ce qui peut s'inscrire, enfin, être contenu dans un livre. Donc ça peut être en musique une partition, ça peut être une photo, ça peut être une composition numérique, ça peut être plein de choses. Et donc là, on se trouve vraiment dans le lien. Et c'est une chose très très importante pour moi. Je pense qu'on est dans une société qui, depuis des décennies, voire des... Enfin, en tout cas, depuis la Renaissance, on a tellement mis l'individu au cœur du monde qu'on a l'impression que l'idéal humain, c'est au bout de sa vie d'avoir réussi à couper tous les fils qui nous relient aux autres. Et donc, moi, je pense qu'il est urgent de rétablir la culture du lien à travers tout ce qu'on fait dans la vie, dans tous les domaines. Je suis venu dans un temps d'après-guerre, un âge de fer et de houille, un âge d'or sur la page où les dealers pourtant te sertissaient de rouille, de limaille et de poudre de silicose, où la sidérurgie aujourd'hui repose dans les gravats, ça va, que tu n'aurais pas avalé. Les gueules noires se vendaient pour une tonne d'or noir. J'ai grandi dans une époque où l'on brûlait les fossiles pour griser nos nombrils, où les dealers acculaient les artistes à la sidération, au culte de l'exception, à la coque, à l'acide, où de lents suicides se diluaient dans le rock, où l'opium s'appelait liberté, le grand mot, le grand serre-tête. Une liberté qui contribuait à la traite des blanches, des noires et des rousses et des ptios qui croyaient trouver Dieu chez les prêtres et que la confusion des mots de ceux-là pénétrait en même temps que la main dans le sac, l'arnaque dans la bourse et la bite dans la bouche. Pour que se mêle mieux aux cieux, au plus haut des cieux, la honte et le silence. Où toi tu marchais sur des chemins de croix où rien ne danse. Je crois que je vivais parmi des hommes considérés selon ce qu'ils consomment, parce que pour maintenir la croissance, le PIB, il faut gaver crassement, grave gaver. On se tait, mais tous les vivants le savent. J'ai vieilli dans un monde où les dealers te shootaient au tracas statine, te distiller l'ocytocine et l'individualine et l'égoline. Et je continue de vieillir où les revendeurs te picousent aux huiles essentielles et te poussent dans le repli, l'effacement du doute et le cocoon de l'entre-soi, le bien-être qui se résume à du regard sur l'intérieur du scaphandre ou du miroir. Des boucliers propres qui nous protègent de la menace des autres. Je continue de vieillir dans une démocratie aux troubles relift, dans le mensonge où les lobbies se font passer pour de jolis altruistes syndicalistes, et te recoiffent et te rhabillent avec des contrefaçons qui se maquillent à la perfection. Je continue à vivre dans un monde où dire non à un emploi de fabricant d'armes est plus grave que fabriquer des armes, en même temps qu'on se fabrique des masques, des sourires et le look qui efface tout reste de critique. Je vieillis dans un monde et continue d'y vieillir et je nage dans un jeunisme où l'on s'immobilise dans le fitness des régimes, les régimes sans la fesse parfaite, la terreur de l'amour toujours, toujours, où le but est de paraître sans tâche et sans attache, libre. Libre, 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 avec ce psychotrope dans la tête où l'on s'ingénie à se couper de toutes et de tous et de tout. Je suis né dans une époque dont je ne partirai pas sans m'être extirpé des blablas, des blablas baba, des blablas béa, des blablas de bâton, qui nous instille le coach et son banc, que nous instille le coach et son banc, le libéral, le capital et son laquais, le représentant du commerce et son paquet de sourates et de dictates, le pape ou le pop, le bonhomme du labo, son sponsor et le fabricant de sirop ou de testostérone pour les neurones fatigués. Je ne partirai pas sans avoir crié en poème en « Je t'aime », ma haine d'avoir vu terrasser, tuer, tailler la femme et l'homme et consort, sans avoir lourdé les rapports de l'homme sur sport avec ce qui l'entoure et qui pourtant sentait fort l'amour. Je ne partirai pas sans avoir crié en poème en « Je t'aime » pour casser le silence ou l'anesthésie des mots désincarnés des cupides, déconnectés de Cupidon du bide, qui en a tout de même un petit peu dans la tête, qui sait que s'il est seul, il meurt, qui se méfie de la méfiance et de la compète en permanence, que quelque chose pousse à aimer, aimer, aimer se frotter avec n'importe qui ou à peu près. Je ne partirai pas sans avoir crié en poème en « Je t'aime » ma haine d'avoir vu terrasser, tuer, tailler la femme et l'homme et consort par des hommes plus robots que bêtes à sang chaud en Allemagne, en Palestine ou Congo. Je ne partirai pas sans avoir chanté les interstices, les filigranes, les lianes de nos cultures, de celles qui les cultivent, qui font ce qu'ils peuvent, s'accrochent, se lient, se délient, se relient, se boivent et s'abreuvent avec de l'attention, de la lenteur et de la décroissance devant l'obésité d'un monde mafieux sous perfusion par les dealers, sous prescription par les leaders. Dealer, allez, dealer, oui, toi, le poète. Que la poésie peut encore sauver le monde ou à tout le moins sa dignité. Avant qu'Homo sapiens, ce pauvre air me disparaisse et peut-être, en disparaissant, libère. Je ne partirai pas sans avoir humé puis murmuré la sève du hêtre, du baobab et du chêne, du coudrier, de l'olivier, du saule, du mycélium et du rhizome, des flux, du xylème et du phloème, le bois le libère. Sans avoir suivi les fils des voyages, des ichneumons, des syrphes, des bourdons, des bombiles, capter tous les bruissements d'alentour, les petits pas de Rose ou de Mohammed, lorsque, se croisant, ils ont refait le monde au fond, de quelques yeux ouverts, des pieds à la tête qui passaient. Lorsque j'aurai respiré toutes les haleines à mes carrefours où le vent s'en mêle avec ses pollens et ses scories, les traces microscopiques de tout ce qui cohabite et a fait le monde avant moi. Lorsque dans un poème qui parle ou qui se tait, j'aurais été porteur de toutes ces choses qui désaltèrent, comme fait un porteur d'eau. Je ne partirai pas sans avoir crié en poème en « Je t'aime » que beaucoup de choses nous poussent à aimer, aimer, aimer se frotter avec n'importe qui, n'importe quoi, ou à peu près.
Nous sommes au terme de cet enregistrement. Ce terme est dû au retard de la poétesse Rime Batal, puisque nous n'avions pas des nouvelles, donc par politesse nous avons entendu sa venue. Ça nous a pris un petit quart d'heure avant d'avoir de ses nouvelles. Emmanuel l'a remplacé rapidement et nous sommes obligés de nous arrêter, puisque après nous, il y a un autre enregistrement. L'émission sera courte, mais il a été un enregistrement intense vu la présence du public, fort nombreux, et l'accueil qui a été réservé à la fois à Dominique Massot et à Emmanuel Malpe. Voilà, nous étions en direct du Festival des Voix Vives à 7. Merci à Dominique, merci Emmanuel, et merci cher public.
Onde poétique. Au Festival Voix Vive, à 7h.